I placed it by your side.
Bienvenue sur Radio Campus 93.3, c'est Féministes et vous, l'émission des féministes d'OLF 63. Nous sommes ravis de vous rencontrer à nouveau ce soir, deuxième mardi du mois. Les drôles de dames ce soir vont se présenter. Alors, à ma droite,
Stéphanie, bonsoir.
Bonsoir Stéphanie, nous avons deux invités, deux élus locales qui vont pouvoir donc nous faire partager leur expérience de femme politique.
Agnès Mollon, bonjour.
Caroline Dallé, bonjour.
Merci. Et donc ensuite pour l'édito.
Témoin, Karine. C'est moi.
Voilà.
Bonsoir.
Assistée de
Lise.
Bonsoir. Voilà.
Donc, cette émission est consacrée au sexisme en politique. Et donc, nous allons commencer par écouter l'éditorial de Karine.
Debout. La parité est une injure faite aux femmes. Nous pouvons faire de la politique sans avoir besoin d'une quelconque loi pour l'imposer.
Alors accepter ce précepte reviendrait à dire qu'aujourd'hui, si les femmes ne s'engagent pas en politique pour devenir des élus de la République, c'est que soit nous n'en avons pas l'envie ou que soit nous n'en aurions pas les compétences requises. Ce serait donc ignorer, encore une fois, notre société empreinte d'inégalités sous le joug d'une perpétuelle domination masculine. Comme si le soi-disant naturel d'aujourd'hui ne continue pas à nous cloisonner dans des rôles et des fonctions préétablies qui fait que la politique a du mal à ouvrir ses portes aux femmes. La politique, comme l'entreprise, est un lieu de pouvoir. Et ces messieurs ne veulent pas lâcher le pouvoir. Alors pour dénigrer les femmes qui ont le courage en s'engageant de lutter contre ce bastion masculin, tout est bon. Elles sont caricaturées dans leurs actions, ramenées sans cesse à leur sempiternelle essence féminine, jugées sur leur physique ou sur leurs difficultés à concilier leur vie politique et leur vie familiale. Souvenons-nous du lapidaire « Mais qui va garder les enfants ?» prononcé par Laurent Fabius à l'encontre de Ségolène Royal annonçant sa candidature à l'élection présidentielle. Alors oui, des lois sur la parité sont nécessaires pour juguler la misogynie politique. N'oublions pas que les femmes représentent plus de la moitié de la population française et qu'à ce titre, il est légitime de rééquilibrer toutes les instances politiques. Mais le chemin est long, car quand bien même la loi existe, le combat perdure. Prenons l'exemple des élections municipales à venir. Désormais, dans les villes de plus de 1000 habitants et habitantes, la parité est obligatoire. Mais combien de femmes sont tête de liste? Un petit chiffre comme ça, 80% des maires sont des hommes.
Les femmes, nous ferions de la politique différemment et si nous avions le pouvoir en main, tout serait apaisé.
Peut-être. Quoique, bien des contre-exemples me viennent à l'esprit de femmes politiques qui n'étaient pas vraiment apaisées. Citons par exemple en femmes de pouvoir, Catherine de Médicis, Margaret Thatcher ou encore Marine Le Pen, pas vraiment des images apaisées et maternantes. Mais là n'est pas la question, il ne s'agit pas de faire de la politique avec nos gènes de filles qui, encore une fois, correspondent à une génétique sociale et absolument pas à un état des lieux biologique immuable. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'on en attend beaucoup plus d'une femme politique que d'un homme politique. Elle doit démontrer au sérail qu'elle a mérité sa place d'élue, qu'elle est compétente. Et en cela, les femmes font de la politique différemment. Elles travaillent, elles, leur dossier, pour montrer qu'elles maîtrisent, elles, leur sujet. L'exigence des citoyennes et des citoyens que nous sommes devrait être la même pour toutes personnages politiques, qu'ils soient femmes ou hommes. Après tout, nous sommes peu soucieux de l'incompétence crasse de certains messieurs élus.
Les femmes sont-elles des hommes politiques comme les autres ?
Elles ne doivent être ni meilleures ni pires. Nous aurons gagné un grand combat dans l'égalité entre les femmes et les hommes le jour où nous saurons élire une femme incompétente et qu'il n'aura rien de plus normal que d'avoir une femme présidente de la République.
Merci Karine. Donc nous allons maintenant écouter une chanson qui a été détournée par Aretha Franklin pour montrer que justement les femmes ont droit au respect. Donc Aretha Franklin, Respect. Sur Radio Campus 93.3 et vous êtes en train de vous féminister, mais ne fuyez pas, c'est très bon pour la santé. Alors, dans un instant, le Schmilblick de Céline. Oui, j'ai décidé de ne pas appeler ça revue de presse cette semaine, ce mois-ci, ça sera donc un Schmilblick, mais on va quand même mettre la virgule. Le sexisme en politique. Alors, comme l'a dit Karine, il y a eu qui va garder les enfants. Après, vous vous rappelez, il y a eu La robe à fleurs de Cécile Duflot, sifflée, encore une façon de, comment dire, de montrer que c'est quand même incongru qu'il y ait des femmes qui fassent de la politique, des femmes qui s'habillent en femmes, qui ne cherchent pas à se déguiser. Non, des femmes. Ben oui, il y a des femmes. Et donc, le fait de siffler pour une tenue féminine, ben, c'est une certaine façon... Une façon de dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'une femme, ça doit séduire, ça doit faire des enfants éventuellement, mais de la politique, mais alors, non, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc vraiment, ça démontre une attitude de l'Assemblée nationale qui est assez rétrograde. Vous vous rappelez les gloussements aussi à l'égard d'une élue? Eh bien, ces gloussements ont été sanctionnés. Et c'est là qu'on... Bon, on se dit que finalement, la loi ne marche pas si mal que ça, puisque la sanction est financière. Hein, cet élu a été privé du quart de son indemnité parlementaire. Donc on se dit que finalement, il y a peut-être une justice qui commence à venir. Autre anecdote, toujours dans l'éducation nationale, dans l'Assemblée nationale. Wow. Wow. Lapsus révélateur, mais... Bref. Assemblée nationale, où il y a des élus et où il n'y a que 27% de femmes en France. Donc, une femme députée prenait la parole, justement sur le sujet de la parité, et l'un des messieurs donc, qui était là a dit « C'est qui cette nana ?» Mais preuve que les mentalités évoluent, eh bien, la députée ne s'est pas du tout démontée. Elle a noté le nom du personnage, du grossier personnage, et elle a répondu du tac au tac. Donc il y a aussi un changement des mentalités qui va venir des hommes, mais aussi qui va venir des femmes. Quand on interroge les députés qui sont à la fois dans l'Assemblée nationale et l'Assemblée européenne, on constate que à l'Assemblée européenne, il y a beaucoup moins ou pas de blagues sexistes. Pourquoi ? Dans l'Assemblée nationale en France, il y a 27% de femmes. Au Parlement européen, il y a 40% de femmes. Donc ça change tout. Ça change le rapport, ça change les traditions. Dernière anecdote dans mon schmilblick et ensuite je passerai la parole. Quatre femmes sont ministres de la Défense dans quatre grands pays. La Norvège, la Suède, l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc évidemment, ça fait une jolie photo. Et on a pu lire dans certains journaux, est-ce qu'elles vont faire une politique de femmes ? Est-ce qu'on se pose la question quand ce sont des hommes ? Est-ce qu'on dit, est-ce qu'ils vont faire une politique d'hommes ? Enfin, elles font leur travail et puis voilà quoi. Donc je pense que quand on n'appuiera pas sur le fait que ce sont des femmes, c'est là qu'on se dira qu'on a gagné l'égalité, comme disait Karine, oui, quand on aura quelqu'un d'incompétent et que ça fera aucune différence. Donc je pense que dans notre beau pays, il y a encore quand même pas mal de choses et donc il faut rester vigilante et ne rien laisser passer. Bien, une petite respiration musicale. Alors cette fois-ci, nous allons écouter Zaza, La vie à deux.
Ne fais pas comme ceci, moi je fais comme cela, c'est ma manière à moi. Moi je dis comme cela, mais on dit comme ceci, et c'est plus juste ainsi. Ne va pas par ici, moi je vais par là, passe ou passera pas. Selon moi c'est par là, selon nous c'est pas ça. Et bien vas-y sans moi. Oh mon amour, la vie à deux, tu vois, c'est pas si simple. Du moins ce que l'on croit, du moins ce que l'on croit. Ne mate pas celle-ci, mais je matais celle-là, et c'est moins grave, tu crois. Fais-moi un bisou là, suis-moi, on va au lit, tu ne penses qu'à ça. Si on partait là-bas, rien que nous, you and me, je veux rester ici. Je t'aime moi aussi, une chanson tralali, une chanson tralala. Oh mon amour, la vie à deux, tu vois, c'est pas si simple, du moins ce que l'on croit. Oh mon amour, quand c'est coup-ci, coup-ça, à deux toujours, c'est bien mieux que sans toi, c'est bien mieux que sans toi. Sans toi. Tra-la-li. Tra-la-la. Tra-la-li. Oui, oui. Tra-la-la. Tra-la-li. Tra-la-la. Tra-la-li. Tra-la-la.
Féministe et vous, l'émission d'OLF 63, 93.3, Radio Campus, deuxième mardi du mois, c'est noté sur la plaquette de pilules. Bien, c'est maintenant le moment de nos invités avec Stéphanie.
Oui, bonsoir. Donc ce soir, dans cette émission consacrée aux femmes et à la politique, nous recevons deux élus locales, Caroline Dallet et Agnès Mollon. Je leur donnerai la parole dans quelques instants. Mais avant, parce que je suis Madame Chiffre, c'est le féminisme, j'aime tripoter les chiffres et se rendre compte à quel point ça fait mal. En matière de politique, l'accès au mandat par les femmes a été longue et douloureuse. En fait, on a des velléités électorales de ces dames depuis 1849. 1849, date à laquelle une compatriote a voulu se présenter aux élections cantonales et en fait a été complètement rejetée et huée. Ça n'existait pas à l'époque. Mais ça n'a pas empêché les dames françaises et certains partis politiques de relancer le débat à la fois du droit de vote des femmes et à la fois de l'éligibilité de ces dames à partir de 1901. Pour mémoire, c'est seulement à partir de 1944 que ça aboutit, à l'époque du général de Gaulle. Alors aujourd'hui, donc, on peut voter et on peut se faire élire. Voter, d'accord, pas de souci. Se faire élire, c'est toujours encore un petit peu plus difficile. Là, on a aujourd'hui des élus locaux, donc qui sont sur des mandats locaux, régionaux, départementaux ou municipaux. Donc je vais vous donner quelques petits chiffres locaux. Par exemple, on a bientôt les élections municipales, c'est-à-dire on va élire le ou la maire et ses conseillers ou conseillères municipaux. En France, jusqu'à présent, et ça va bientôt changer, on avait 35% des conseillers municipaux qui étaient des conseillères et 13,8% des maires qui étaient des dames. Il faut savoir que les dames sont plus nombreuses dans les communes de moins de 3500 habitants et les messieurs beaucoup plus nombreux dans les communes de taille supérieure. CQFD. D'ailleurs, dans le Causette du mois dernier, un article excellent sur les maires dans le milieu rural, parce que c'est la croix, la bannière, et donc c'est souvent un sacerdoce qui est plus porté. Enfin, les femmes peuvent s'investir plus dans ce genre de sacerdoce, puisque les messieurs y rechignent un petit peu plus.
Oui, le sacrifice de soi, toujours.
Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le département, donc attention, le conseil général, ce qu'on confond toujours avec notre conseil. Le conseil général est un très mauvais élève puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas d'obligation de parité au niveau des représentations. Nous avons 13,9% des conseillers généraux qui sont des conseillères et 5% des présidentes. Ça fait relativement peu, mais nous ne douterons pas que ça changera dans les années à venir. Ensuite, pour un autre échelon local, le conseil régional, donc qui concerne la région, donc ici en Auvergne, vous avez, attention, 48% des conseillers régionaux qui sont des conseillères. Donc un relativement bon élève parce qu'il y a une loi en fait qui oblige déjà à la parité, comme quoi c'est efficace. Vous avez 7,7% des présidents qui sont des présidentes, mais en l'occurrence ça fait qu'une. c'est Golène si tu nous écoutes. Et 45% qui sont des vice-présidents, c'est-à-dire des conseillers régionaux qui ont une mission dédiée et un mandat propre. Donc voilà, en ce qui concerne les chiffres, maintenant je vais me tourner vers le côté plus humain, car nous avons la chance d'accueillir Agnès Mollon du Parti Europe Écologie Les Verts et Caroline Dallet du Front de Gauche. Donc je vais leur laisser quelques instants pour se présenter en quelques mots. Madame Mollon.
Donc je suis conseillère municipale à Rion et conseillère régionale d'Auvergne donc. Conseillère régionale, c'est mon deuxième mandat. Et conseillère municipale, j'ai commencé à me présenter en 1995, donc un petit peu avant 40 ans.
Et Caroline Dallet.
Eh bien voilà, donc moi c'est Caroline Dallet, je suis conseillère municipale dans une jolie petite commune qui s'appelle Châteldon, dans le nord-est du département.
Terre d'accueil des féministes.
Terre d'accueil des féministes. C'est mon premier mandat en tant que conseillère municipale, je suis aussi déléguée à l'intercommunalité. Et depuis 2010, je suis conseillère générale du canton de Châteldon et je siège au groupe Front de Gauche puisque je milite au sein du parti de gauche. Voilà, donc au conseil général, je fais partie des 15 femmes sur 61 conseillers généraux.
Et soit 25%.
Qui demandent à avoir la parole parmi tous ces messieurs qui ont une voix parfois un peu forte.
Alors justement, excellent propos. En tant que conseillère générale, donc on va plus axer là-dessus, dans une assemblée très, très mal, comment ça se passe en fait pour une élue, une jeune élue, qui plus est, en début de carrière politique. Comment ça s'est cousu, en fait, votre place dans ce département? Et depuis quand êtes-vous élue au Conseil général? Ça va nous réfléchir un peu sur les calendriers électoraux.
En fait, effectivement, quand j'y réfléchis, j'y réfléchis en termes de difficultés, plusieurs difficultés quand j'ai commencé à exercer les mandats. La première difficulté, c'est réussir à se faire entendre. En fait, systématiquement, au début, à chaque fois que je parlais, les hommes me coupaient la parole. Et c'est très frustrant parce qu'en fait, je me disais, mince, ce que je suis en train de raconter, c'est nul. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que c'était plus une notion de respect bafoué, parce qu'ils faisaient de même avec mes collègues femmes. Ils coupent systématiquement la parole, même si ce sont des amis ou des collègues, et ça, pas forcément consciemment, ne se rendent pas forcément compte que nous, par contre, on a été respectueuses et qu'on leur a laissé leur temps de parole. Alors, j'ai du coup essayé de couper la parole à des messieurs, pour voir ce que ça donne.
Ouh là là.
Les réactions sont plutôt agressives, du type « laisse-moi finir » ou alors plutôt sur le ton de la colère « tu permets, je termine » ou alors ils parlent encore plus fort que moi et là, j'ai pas le niveau des décibels suffisant pour faire face. Voilà. Alors après, deuxième difficulté, effectivement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, c'est toujours justifier et prouver qu'on a notre place sur les bancs, à leur côté, dans l'hémicycle et dans les assemblées. J'ai remarqué, parce qu'on peut me taxer de parano hein, aussi, mais j'ai remarqué quand même que quand deux hommes sont en désaccord, eh bien, ils exposent leurs arguments, parfois très longuement. On dit que les femmes causent beaucoup, les hommes savent très bien le faire aussi. Hein. J'ai déjà chronométré, c'est assez impressionnant. Et donc, ils ne sont pas d'accord et ils exposent leur point de vue politique différent. Et puis moi, quand je suis en désaccord avec un homme, alors il va commencer, parce que souvent l'homme est quand même gentleman, il va commencer par me réexpliquer avec d'autres mots, parce que peut-être je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Et oui, l'homme est plus intelligent que la femme.
Ils sont pédagogiques.
C'est la taille du cerveau.
Voilà. Et comme en plus la majorité de mes collègues au Conseil général sont d'anciens enseignants à la retraite, il y a un petit air de banc d'école qui n'est pas forcément pour me plaire d'ailleurs. Donc du coup, quand je reviens aux positions auxquelles je tiens et que je maintiens, alors là, il se dit, peut-être elle est utopiste, ou alors folle. Ou alors,
hystérique.
Idiote. Voilà. Et alors, je peux raconter une petite anecdote, par exemple, de début de mandat, comme ça. Je me souviens, je défendais un point de vue écologiste sur la ligne à grande vitesse. En fait, j'abordais les notions de temps et la question de pourquoi toujours plus vite. Parce qu'il s'agissait de gagner du temps, 20 minutes, sur les lignes ferroviaires traditionnelles, et cela cumulé à des sommes pharaoniques, qui ne tombent pas du ciel, hein, c'est des fonds publics qui viennent de nos poches. Et donc, je trouvais que ça allait à l'encontre d'une société qui doit prôner le bien vivre, prendre le temps, une société où il fait bon vivre, tout simplement. Eh bien, donc, le vice-président en charge du dossier, a dit, eh bien, pour notre collègue Caroline Dallet, cet après-midi, nous ne passerons pas un PowerPoint, mais des diapositives. Alors, c'est assez cocasse quand on sait que je suis la plus jeune de l'Assemblée, quand même. Voilà. Mais derrière tout ça, il y a un air, encore une fois, là, de leçon à apprendre. Et puis, surtout, la volonté de me faire croire que je suis dépassée par les événements et que je suis complètement à côté de la plaque. Voilà, toujours est-il quand même, pour finir l'anecdote, que 2 ans plus tard, alors que le gouvernement a changé, finalement, ils sont rangés de mon côté, parce que pour des raisons économiques, évidemment, la LGV, c'est plus possible.
Ouais. Alors, pendant votre intervention, Caroline Dallet, j'ai vu Agnès Mollon qui avait l'air d'opiner du chef régulièrement. Comment avez-vous vécu les prises de parole, les temps de parole, les confrontations avec les collègues féminines ou masculines, par exemple, à l'Assemblée du Conseil régional? Est-ce qu'on va y aller sur les deux, là?
C'est un petit peu plus facile à la région, dans la mesure où, justement, la parité oblige à un même nombre d'hommes et de femmes, et donc aussi de femmes en responsabilité. Donc, il y a quand même, on présuppose quand même que les femmes qui sont élues au Conseil régional ont une certaine compétence. Enfin bon, pas toutes quand même, certaines. Celles qui sont vice-présidentes, c'est à peu près sûr.
Et je confirme.
Les autres, ça dépend. Donc quand on a une opinion à défendre, mais moi j'ai le double désavantage, moi c'est peut-être le tien aussi, mais d'être écologiste et femme, donc ça fait beaucoup de handicap.
Vous
cherchez
la bagarre.
Exactement, non mais déjà que quand on est femme, on n'est pas bien fin, mais quand on est écologiste, on est encore moins intelligent parce qu'on ne comprend pas le progrès, et le progrès du progrès, la valeur de l'économie, enfin on ne comprend rien à rien, et nous aussi on veut revenir aux diapositives. Donc on se fait quand même beaucoup rembarrer. Alors, j'hésite toujours à savoir quelle est la part. Est-ce qu'on rembarre la femme? Est-ce qu'on rembarre l'écolo? J'avoue que mes collègues masculins s'en prennent aussi pas mal. Mais j'ai vécu les mêmes anecdotes que toi sur on coupe la parole, on réexplique, on va faire de la pédagogie. Tout ça, c'est exactement la même chose.
Et par exemple, au sein d'un conseil municipal, puisque vous êtes au conseil municipal de la ville de Rion.
Alors, au conseil municipal... les positions sont différentes. C'est-à-dire que dans un conseil municipal, mais dans un conseil en règle générale, dans une collectivité, les personnes qui font partie du groupe majoritaire s'expriment fort peu. Ce sont ceux qui font partie des groupes minoritaires dans la majorité, donc le Front de Gauche et les Verts pour une majorité de gauche, et ceux qui sont dans l'opposition, c'est-à-dire l'UMP, le MoDem, etc., les gens de droite ou d'autres partis d'ailleurs, qui prennent la parole. Et il est très facile, enfin, j'ai remarqué dans ma municipalité que les femmes se font très souvent rembarrer beaucoup plus facilement que les hommes. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une grande gueule, je pense. Donc il y a une question aussi de façon de parler, d'assurance, parce que je suis élue depuis 2001, donc je commence à avoir de la bouteille. Et je ne dis pas qu'en 2002, j'avais les mêmes facilités. C'est un métier qui s'apprend aussi, hein. Donc maintenant, c'est plus simple, mais beaucoup de femmes se font rembarrer d'une manière à peine polie, je trouve. C'est assez courant dans les collectivités.
Oui, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve pour tout type de public féminin. Dès l'école, en fait, on aurait tendance à encourager la prise de parole chez les garçons par le corps enseignant de manière inconsciente et de manière complètement ancrée dans la société dans laquelle on vit. Et du coup, c'est vrai que les petites filles auraient plus de difficultés à saisir la parole, à, je dis pas à construire une argumentation, mais du moins à porter leur argumentation. Et c'est, du coup, c'est vrai qu'on a tendance à dire très vite d'une dame qui exprime ses idées et qu'elle est grande gueule, comme vous l'avez dit vous-même. Et oui, non, mais c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les études parce qu'on étudie beaucoup comment on élève les enfants, comment on les éduque et comment véhiculer l'instruction. Et ça ressort beaucoup. Dès l'enfance, en fait, il est plus difficile pour les petites filles de s'exprimer. Avant de continuer cette conversation croisée, on va écouter une grande fille qui n'a pas peur de s'exprimer. C'est Juliette qui va nous bercer avec Patronne.
Depuis tant de prophètes, de savants vertueux, l'équation est logique, c'est la preuve par deux. On a tant proclamé sur un ton formidable, le diable est une femme, les femmes, c'est le diable. Et qu'elles soient victimes ou qu'elles soient complices de leurs malheurs et fils et de leurs maléfices, frappés dans les premiers talibans ordinaires, ces démons adorés, car il faut les faire taire. Sur mon lit calciné, lascive et si cruelle, messieurs, venez m'aider à ôter mes dentelles. En vos brûlants émois, ainsi que je l'ordonne, allez, appelez-moi patronne. Quel que soit le brigand, il y a la corruptrice, consciente du pouvoir qui dort entre ses cuisses, qui susurre les ordres et les avis funestes, vous mes sœurs les salopes, les putains et les pestes. Derrière chaque type, sans foi ni loi ni âme, si vous cherchez le diable, vous trouverez la femme, la gueuse, la traîtresse, la garce, la sorcière, la fille de Borgia et la maman d'Hitler. Sur mon lit calciné, lascive et si cruelle, je vous attends, venez, mes belles demoiselles, que votre dernier mot, que la vie abandonne, soit dans un...
un soubresaut. Oh, oh, oh. Patronne. En attendant, je compte vos crimes et vos bassesses, tous vos pieux mensonges et vos histoires de fesses. J'encourage le vice, je provoque des guerres, je dirige le monde et Dieu me laisse faire. Parce que Dieu se fout bien de vos petits tourments, avec ses anges blancs dans son blanc firmament. Dieu est tellement belle, c'est une femme généreuse, mais ne vous y fiez pas, ça n'est qu'une allumette. Mon lit calciné, la cive est si cruelle. Pour fêter vos péchés, je réponds à l'appel. Pour me faire venir d'une voix qui frissonne, il suffit de redire Harry.
Radio Campus 93.3.
Et nous reprenons le fil avec Agnès Molon et Caroline Dallet qui sont nos invités sur les femmes et la politique. Donc sur cette deuxième partie de conversation croisée, moi j'aimerais vous poser une question. Lorsque vous avez démarré vos carrières de femmes politiques, est-ce que vous étiez posé une question un peu de démarche « je fonce en politique parce que je suis une femme et il y a des choses qui ne vont pas au regard des droits des femmes » ou « je fonce en politique parce que je suis un être humain et il y a des choses qui ne vont pas dans mon pays » Caroline.
Deuxième réponse. En fait, moi, j'ai foncé en politique en 2002 quand j'ai vu ce qui se passait au second tour des élections présidentielles. C'était la première fois que je pouvais voter pour les présidentielles. J'avais 23 ans et j'avais la rage au cœur de voir en fait que c'était les positions hyper simplistes et les discours de haine qui avaient eu la faveur des votants. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un parti à même de gagner les élections, mais aussi proche, le plus proche possible de mes idées. C'est pour ça que j'ai d'abord intégré en fait le Parti socialiste. Il se trouve qu'après, il y a eu quand même un gros point de rupture avec le traité constitutionnel européen, avec un Parti socialiste qui s'est embréché, qui est parti dans cette brèche d'une Europe ultralibérale. Et puis en plus un référendum sur lequel on s'est bien assis sur la voix du peuple que moi j'estime souverain.
Ça a beaucoup d'esbrouf. Hein,
voilà, exactement. Donc j'ai milité un petit peu au Parti socialiste, hein, comme tout le monde j'ai collé des affiches, puis il y en a eu un petit peu marre parce que finalement le militantisme, faut quand même s'éclater là-dedans, faut trouver les copains, les copines, les camarades, refaire le monde, etc. Donc là c'était plus possible au Parti socialiste pour moi. C'est pour ça qu'en fait j'ai rejoint le Parti de gauche dès sa création en 2008 par Jean-Luc Mélenchon, qui est un parti éco-socialiste et féministe et qui correspond complètement aux valeurs qui m'animent.
D'accord. Et donc, vous, Agnès Molon, vous êtes aussi dans un parti féministe, mais est-ce que, donc Europe Écologie Les Verts, mais est-ce que c'était votre démarche première ?
Moi, je milite depuis toujours, je crois. Enfin, j'avais 14 ans et demi quand j'ai commencé.
C'est jeune.
Mais je suis de la génération, n'est-ce pas, n'est-ce pas les petites ? De la génération qui est née avant 68.
C'est à qui on doit beaucoup.
Merci. Et donc, quand j'avais 15 ans, je faisais de l'alphabétisation, j'étais au conseil d'administration des lycées, enfin, tout un parcours comme ça, et les groupes femmes, parce que dans les années 80, il y avait ces belles institutions où on parlait entre nous, parce qu'il y avait besoin de se retrouver, et puis le planning familial, bref, tout ça. Puis après, j'ai fait des enfants, donc il y a un trou de 10 ans dans mon CV militant, parce que on fait des gamins, mais il faut les élever et il faut et même si leur père contribuait, ça n'empêche pas qu'il fallait, qu'on peut pas non plus. Quand on fait de la politique, on y passe quand même beaucoup de temps, on y passe beaucoup d'énergie et on peut pas mener 15 trucs à la fois. Donc mes enfants, quand ils étaient petits, et puis bon, quand ils avaient 10-12 ans, c'était différent. Là, on peut commencer à s'y remettre. Donc, ensuite, j'ai recommencé un peu la politique en 92 avec le CRAF. Donc, c'était Ralph Front à Rion. Et on a souhaité monter une liste pour les élections municipales d'Alliance Verte et Rouge. Donc, les Verts et la LCR à l'époque. Donc, c'était en 95. Et on est venu me chercher pour être la tête de cette liste. J'étais pas encartée encore à l'époque, mais j'ai été écolo depuis toujours aussi. les luttes écolo. J'étais à Malville en 77, pardon. En 77. Donc, on est venu me chercher quasiment naturellement pour dire, bon, ben, il faut que tu prennes la tête de liste parce que tu n'es ni dans un parti ni dans l'autre. Et puis, tu es une femme. Donc, bizarrement, chez nous, c'est un peu l'inverse. Mais le féminisme, la parité, elle est dans les statuts des Verts depuis la création.
Oui.
Et vous savez qu'on a 30 ans. Donc, ça fait 30 ans que chez nous, c'est inscrit. Alors, je ne vais pas non plus nous jeter trop de fleurs. Quelquefois, on s'assoit dessus joyeusement. Ça peut arriver, malheureusement, même chez nous. Voilà. Les prises de position personnelles et les prises de position collectives font que quelquefois, les femmes, ça passe en deuxième. Mais enfin, je pense que nous sommes l'un des partis qui respectent le mieux les femmes et leur position en politique. Et
c'est la raison pour laquelle nous vous avons invitées toutes les deux. Et vos réponses, en fait, me satisfont beaucoup, puisque vous venez de me dire « je m'engage en politique parce que je suis une citoyenne, un individu qui habite en France avant d'être une femme ». Donc, vous avez une porte d'entrée qui est vraiment globale et humaniste. Donc ça, c'est vraiment très bien. Mais j'aimerais revenir sur la question du féminisme. Et j'aimerais savoir, en fait, maintenant que vous êtes élue, donc vous avez une connaissance aiguë de vos territoires et également une analyse des politiques globales en France et même au-delà. Nous, à Oser le féminisme, on constate que les droits acquis, bon, par exemple, pour parler du plus connu, l'IVG, etc., les égalités entre femmes et hommes ne sont pas complètement acquises ou tout du moins pérennisées en France. Est-ce que vous, il y a des choses dans l'actualité, soit l'actualité nationale ou internationale, ou même dans les politiques locales, qui peuvent vous chagriner ou sur lesquelles vous aimeriez que votre parti, votre liste, votre institution jette un regard plus attentif ? Caroline ?
Bah, pour parler par exemple de mon mandat de conseillère municipale, il se trouve quand même que déjà à Châteldon, on a signé la charte égalité homme-femme. Ça veut dire que par là, on s'engage en fait à avoir au moins la parité au niveau des élus, bien qu'elle ne soit pas obligatoire puisque nous sommes une petite commune, mais aussi la parité au niveau de l'exécutif. Ça me semble important, on en a parlé tout à l'heure.
Alors juste pour mémoire, en fait, l'exécutif, c'est les membres élus qui ont des missions particulières. C'est le maire et ses adjoints. Donc pas forcément les conseillers municipaux, mais ceux qui sont vraiment décideurs et initiateurs de la politique. Donc ça dans tous les types dans les régions, dans les départements et dans les mairies.
Voilà, tout à fait. Plus ensuite, on a mis à disposition un logement d'urgence pour les femmes victimes de violences.
Bravo.
Également, on aimerait faire en sorte qu'au niveau de l'école, on puisse avoir de la réflexion, des débats sur le jouet genré, intervention, donc pourquoi pas d'oser le féminisme, qui pourrait venir animer un débat au sein des enfants.
On prend notre agenda.
Voilà. Ensuite, plus largement, c'est vrai qu'on parle d'acquis. Les acquis ne le sont que si on continue de les défendre, si l'on s'en soucie. C'est vrai que je discutais il n'y a pas très très longtemps avec une collègue au boulot. Il se trouve en fait que je travaille aussi dans une maison de retraite, je suis animatrice. Et donc je discutais avec une collègue et on parlait des manifestations en Espagne et en France par rapport à cette loi visant directement l'IVG. Et je lui disais, on parlait de cela. Et elle disait oui, mais enfin bon, quand même là, c'est en Espagne. Je veux dire, une telle loi ne risque pas d'arriver en France. Ah bon ? Ah bon ? Mais pourtant, ça existait. Il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui, et on a 19 députés qui demandent le déremboursement de l'IVG en France.
Voilà. Et sous le régime de Vichy, c'était juste, on était juste condamné à mort quand même, hein, si on avortait, il n'y a pas très très longtemps. Ensuite, on a des partis politiques actuellement qui ne font pas des scores complètement médiocres, tels que le FN. À sa tête, un leader, une femme.
Qui était là ce matin, Clermont-Ferrand.
Et dans le programme, des directives qui vont à l'encontre de l'IVG, qui prônent l'interdiction, l'abolition de l'IVG. Voilà, donc en France, ça peut être demain, si on n'est pas vigilante, si on ne fait pas attention à nos acquis.
Agnès Monon.
Même constat, hein. C'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, parce que c'est un combat qu'on a gagné seulement en 1974, hein, l'IVG, et ma foi, moi j'étais contente de trouver cette loi, Je pense que beaucoup de femmes en ont besoin et impossible d'imaginer un retour en arrière. Alors maintenant, moi, je suis enseignante et j'ai bien vu les enfants qui ne venaient pas à l'école le mois dernier à cause de cette journée de retrait de l'école et de cette idiotie dans laquelle on prétend qu'on va forcer les enfants à apprendre à se masturber et à devenir homosexuels. Enfin, mais c'est tellement crétin que j'arrive pas à comprendre que les gens puissent se laisser prendre à
ça. Plus c'est gros, plus ça passe.
Ouais, c'est vrai.
Donc là, en l'occurrence, on parle de la rumeur du genre. Donc il y a quelques semaines, on a eu un appel de groupuscules extrémistes, xénophobes, homophobes et phobes, qui en fait ont dévoyé l'objet de ce qu'on appelle l'ABCD de l'égalité, qui est en fait un dispositif scolaire visant à expliquer aux enfants que les petits garçons et les petites filles ont les mêmes capacités qu'une petite fille peut être pilote, un petit garçon peut être sage-femme, je ne sais plus le terme.
Mailloticien.
Merci, j'essaye de briller en société, je n'y arrive pas. Et donc, du coup, ils ont dévoyé les propos en essayant de nous faire croire qu'on allait déguiser les garçons en filles, en faire tous des homosexuels. C'est très grave, hein, l'homosexualité, n'est-ce pas? Et qu'on allait leur apprendre des choses abracadabrantes. Le problème, c'est que le message a très bien passé et que à Clermont-Ferrand, sur certaines écoles, 40% d'abstention sur ces journées de retrait d'école.
Hier
encore.
Pour info, hier, quand même beaucoup moins à Clermont-Ferrand que la première en janvier, donc le mouvement diminue.
Donc le mouvement diminue, on a eu moins de monde hier, mais c'est vrai, comme vous le dites, Agnès Molon, les choses, les discours rentrent d'une manière étonnamment facile dans le crâne des gens.
Je peux rajouter quelque chose?
Je vous en prie.
Un truc beaucoup moins important, mais ce qui m'agace beaucoup, moi, c'est la non-féminisation des noms. Alors quand on dit Madame le recteur, on dit Madame le ministre.
Madame le Dazen.
Voilà. Mais alors, pourquoi? Alors, on nous dit oui, mais c'est pas beau. Ben, Madame la rectrice, c'est pas beau. Et Madame la directrice, ça pose aucun problème. Mais Madame la rectrice, ce n'est pas beau. Madame la préfète, ah ben oui, mais c'est la femme du préfet. Non, mais ça va, ça suffit maintenant. On est passé au 21e siècle et maintenant, la femme du préfet, elle va s'appeler Madame la femme du préfet. Point. Madame la préfète, ce sera une femme qui occupe le poste de préfète.
Oui, et la femme du préfet, ce sera Madame Martin ou Madame Duchemal.
Oui, en plus, oui.
Qui
et la
est
femme du président de la République, eh ben, elle sera... elle gardera les gamins.
Et le mari de la prochaine présidente de la République.
Voilà.
Gardera les gamins ou pas. Et d'ailleurs, en l'occurrence, vous avez parlé des enfants. Vous aviez fait, Madame Molon, une petite pause quand vous avez eu vos petits. Est-ce que la question de la maternité pose problème dans la sphère politique pour ces dames? On a vu, par exemple, qu'au Parlement européen, on avait des eurodéputés qui venaient avec leur bébé, parce qu'il n'y a pas de dispositif pour accueillir les enfants et que sinon, elle ratait trop de sessions. Donc vous, est-ce que vous avez vécu ou rencontré des gens qui ont vécu des problèmes du fait de leur maternité? Parce que le problème de la paternité, on ne se le pose pas, par contre.
Eh bien, alors, je commence. Alors, moi, j'ai commencé en politique en même temps que je commençais à faire des enfants. Donc, finalement, ça ne m'a pas trop posé de problème, si ce n'est peut-être à ma mère, qui m'a dit « Mais j'espère quand même que tu vas continuer à t'occuper de ton petit mari et de tes deux princesses. » Donc, mon petit mari, a priori, je ne suis pas sa mère et il arrive à s'occuper très bien de lui et il n'y a pas de souci, tout va bien. Et mes princesses, vu ce que je leur ai expliqué sur les princesses, je pense que ça va aller aussi. Voilà. Par contre, ça fait quand même mal qu'une femme, en plus ma mère, me dise ça, me sous-entendant, es-tu bien dans ton rôle?
Voilà.
Ça, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Maintenant... moi, je suis pour l'égalité homme-femme sur les tâches également ménagères. Et pour le coup, je le dis, mais je le fais. Et on le fait avec moi.
Très bien.
Oui, donc moi qui suis de la génération précédente, je dis souvent qu'en politique, pour réussir, si on est un homme, il faut avoir une femme. Parce qu'elle va s'occuper des enfants, de la maison, de la logistique. Parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Par contre, si on est une femme, il ne faut surtout pas avoir d'homme. Parce qu'il faut s'occuper de tout ça. Et en plus de lui. Donc ça fait beaucoup trop de travail.
C'est la triple journée.
Ouais.
Donc désolée, j'ai conclu avec cette question un petit peu facile de vous êtes une femme et vous êtes une maman. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent. C'est une problématique qui revient très régulièrement. N'oublions pas qu'on peut être une femme sans être une maman et qu'on peut être une femme politique sans avoir d'enfants ou en ayant des enfants qui ont une autre maman ou un papa pour s'en occuper également. Je vous remercie pour vos interventions. C'était vraiment des témoignages très intéressants. Et nous avons une petite pause musicale ou une autre petite joyeuseté, Céline ?
Alors, une joyeuseté. Donc, nous avons exceptionnellement un chroniqueur en direct de Paris.
Attention, c'est la technologie !
Par téléphone, donc c'est une première dans Féministe et vous, attention, manœuvre. Est-ce que Sébastien, tu es prêt à appuyer sur le bouton rouge ?
Patrick !
Est-ce que ça va fonctionner ? On va mettre une virgule et après, si tout va bien, on entend Patrick.
Eh bien, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Nous allons donc parler du genre.
Bonsoir,
où
Patrick.
Est donc passé le genre ? Depuis plus d'un demi-siècle, des universitaires du monde entier travaillent à comprendre comment les inégalités entre les femmes et les hommes se construisent socialement. Ainsi se sont développées les études de genre. Grâce au ministère des droits des femmes et aux organisations féministes, jamais la société française n'aura autant entendu parler dans les médias de la nécessaire égalité entre les femmes et les hommes. Najat Vallaud-Belkacem est même devenue, selon les derniers sondages, la personnalité politique préférée des Français. Tremblante devant autant d'avancées, une droite réactionnaire a inventé la théorie du genre. Un nouveau complot est né, le complot lesbo-féministe, visant à abolir les différences de sexe et, sacrilège du sacrilège, faire porter des robes aux petits garçons, la virilité en danger a été proclamée. On attendait du gouvernement une réaction prompte, claire, simple. Oui, les études de genre existent et la théorie du genre est une invention d'obscurantistes. En vain. Durant plusieurs semaines, Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, a retourné le genre dans ses déclarations sans oser le prononcer. Toute la France féministe soufflait « Monsieur le ministre, le genre, le genre !» Mais le pacte de responsabilité de François Hollande avec le MEDEF était bien plus important. Pas une fois même l'égalité entre les femmes et les hommes n'a été évoquée durant sa longue conférence de presse. Mediapart révéla la semaine dernière que le genre avait été bel et bien mis à l'index, sacrifié sur l'autel de la politique économique et de l'apaisement avec la droite. Le gouvernement français en 2014 a voulu brûler un mot dans les enfers de la trahison. C'était la honte ou la guerre, et ce sera les deux. L'opposition a bien montré qu'elle était prête à vider de son sens l'idée d'égalité entre les femmes et les hommes et s'acoquine dangereusement avec l'Église qui relève la tête avec arrogance. Quel avenir désormais pour les ABCD de l'égalité à l'école ? Quel réel soutien aux enseignants dans cette tâche ? Et avec quels moyens ? Nous verrons alors si le courage est du genre du gouvernement. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices.
Merci Patrick. Donc, merci beaucoup pour cette chronique.
Et c'est passé, c'est bien passé ?
C'est passé, écoute. C'est passé, je pense que c'était à l'antenne. C'est parfait.
Non, mais je veux dire, quand je dis passé, c'était compréhensible. Ça allait pas trop vite, pas trop longtemps. C'est pas toujours facile.
Je pense que ça va. Qu'est-ce que vous en pensez, hein ?
C'était très bien, Patrick.
Bon, bravo, Patrick.
Correspondant à Paris.
Voilà. Sans plus tarder, une dernière pause musicale avec une chanson de Lennon et Yoko Ono. Woman is the nigger of the world.
Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about it. Say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. You don't believe me? Take a look at the one you will.
about you. And then we leave a flat for being a fat old mother hen. We tell her home is the only place she should be. Then we complain that she...
Radio Campus 93.3, Féministez-vous.
Et donc, c'est Karine qui commence.
C'était le rappel à l'ordre de la rédac-chef, parce que voilà.
Donc, le féminisme pour les nuls, notre rubrique culture.
Donc aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler d'un livre qui est en deux tomes, qui s'appelle « Femmes de dictateurs » et qui a été écrit par une historienne et philosophe qui s'appelle Diane Ducré, une jeune historienne et philosophe. Et qu'elle choisit notamment d'éclairer ce qu'on peut appeler l'arrière-cour des grands régimes autoritaires du XXe siècle. Alors, d'habitude, on a plutôt une image du dictateur qui s'évertue à la fois au niveau public et au niveau privé de donner une image cohérente de ce que doit être son idéologie, etc. Et en fait, dans ces deux livres, on découvre des hommes un peu différents de l'idée qu'on s'en fait d'habitude au travers de l'histoire avec un grand H, et on découvre des hommes dans leur relation avec les femmes. Donc on découvre leur parcours, leur construction dans leur idéologie, et puis on découvre les femmes qui les ont accompagnées. Alors, soit à un moment donné, parce que elles-mêmes, on peut le dire, étaient aussi déglinguées qu'eux, hein, parce qu'il y en a quand même qui sont assez déglinguées dans l'eau. Je pense notamment à Elena Ceausescu, qui était un personnage quand même extrêmement particulier, qui avait un tel besoin de reconnaissance qu'elle s'est fait diplômée sur diplômée, de mentions honorifiques au niveau des sciences, alors que c'était une femme qui était illettrée à l'origine pour se faire reconnaître dans la communauté internationale en tant que scientifique connu et reconnu, alors que c'était absolument pas le cas, et qui a évidemment partagé la dictature de son mari et l'exploitation de son peuple, et leur destin s'est quand même plutôt très mal terminé, puisqu'ils ont été fusillés par le peuple qui a pris les armes pour les renverser. En fait, ce qui est assez flagrant au niveau de ces deux livres, c'est que toutes ces femmes, en fait, elles sont souvent marquées par la mort, hein. Elles n'ont pas beaucoup de chance, hein, les femmes qui ont côtoyer les dictateurs. Elles ont soit fini exécutées, soit massacrées, ou alors elles se sont suicidées, hein, comme Eva Braun avec Hitler et d'autres. Et puis on a aussi un peu des personnages un peu atypiques de femmes qui, à un moment donné, se sont engagées dans des combats politiques, combats féministes aussi, combats communistes, et qui ont trouvé sur leur chemin ces messieurs qui étaient encore en construction, qui n'étaient pas les dictateurs que l'on a connus après. Je pense notamment à Fidel Castro, ou je pense aussi à Staline. Au départ, les femmes qui l'ont rencontré, voilà, elles partageaient des combats et des valeurs, et puis elles se sont perdues dans ces rencontres avec ces messieurs. Et alors, soit elles les ont quittées, soit elles sont rentrées en rébellion une fois que ces messieurs ont changé, ou alors elles ont été simplement et purement aussi exécutées pour ne pas montrer leurs propres idées. Diane Ducré définit en fait ses héroïnes. Alors je vais citer sa phrase. Elle dit: ce sont des héroïnes tragiques, amoureuses, des pires criminelles, fragiles et dérangées parfois, touchantes et courageuses, mais ce ne sont pas des victimes, elles choisissent leur destin. Je voulais citer cette phrase parce que je voulais quand même apporter un bémol sur cette phrase de l'auteur, car moi je trouve quand même qu'elles ont toutes autant, à un moment donné, soit été violentées, soit adulées dans la relation qu'elle pouvait avoir avec ces hommes, et que le chemin n'était pas si clair. Et pour terminer, je voulais surtout saluer le travail de recherche et de documentation qu'a fait Madame Ducré sur l'écriture de ce livre, parce que par la petite histoire, on revit la grande histoire, et elle fait un vrai travail de contextualisation de chacun de ces dictatures, dans quelle époque il s'est inscrit, comment il a pu monter sa dictature et son évolution. Et c'est plutôt un bouquin hyper intéressant. Voilà, donc je vous conseille Femmes de dictateurs, et vous les trouvez maintenant en édition de poche.
Merci Karine. À toi Leïla.
Merci beaucoup. Merci Céline. C'est la donc, petit billet d'humeur, ou comment parler d'une des figures emblématiques de la cause féministe noire, communiste, activiste radicale des années 70, ayant une portée internationale sans en parler vraiment. C'est certainement le défi que s'est lancé la rédaction d'un magazine dit féminin. Qui est tombé complètement par hasard entre mes mains. Je n'assume pas ça. Le plus de ce magazine réside donc dans la page 77. J'ai pas le droit de le dire, je vais pas leur faire de la pub, c'est pas possible. Je vous montrerai en off.
Grazia.
Pas de délation. Le plus de ce magazine réside donc à la page 77, page haute en couleurs, où il est justement question d'une grande dame, Angela Davis. Mais pourquoi donc? Est-ce un rappel nous racontant qu'Angela Yvonne Davis n'est pas une chanteuse? Non, non. C'est une femme politique qui est née en 44 en Alabama, en pleine période de ségrégation, dont les parents étaient des enseignants, communistes, militants. Est-ce pour nous expliquer qu'elle fut une activiste révolutionnaire, militante pour l'émancipation des hommes et des femmes noires? Est-ce pour nous éclairer sur sa conscientisation, sa vision féministe d'une lutte à la fois de classe, de genre et de race? Rébellion qui lui a valu d'ailleurs d'être la troisième femme la plus recherchée dans toute l'histoire moderne des États-Unis d'Amérique pour ses liens avec les Black Panthers. Est-ce donc pour nous informer de ses multiples combats sociaux et politiques, pour nous détailler sa surprenante liste de publications engagées? Eh bien, je dirais oui. Si on arrive à lire entre les lignes, faut arrêter de voir le mal partout. Et je dirais non, si on analyse cette fameuse page 77 et qu'on a l'esprit critique aiguisé. En fait, on n'apprend rien de tout ça, rien sur tous ces engagements, rien du film que Shula Lynch a réalisé en avril 2013. Ce qu'on apprend, attendez-vous à quelque chose d'extraordinaire, c'est que Angela Davis avait un style.
The style.
Un style, le style Angela Davis. Et que si, ce petit manteau noir en cuir à 3 500 €, on est sûr à la rédaction de ce magazine qu'Angela Davis aurait pu l'acheter si elle avait pu en 72 à sa sortie de prison, après son acquittement, et que peut-être que même c'est celui qu'elle portait. Ça, c'est de la légèreté. On n'a pas toutes les mêmes approches. Et comme on n'a pas toutes les mêmes valeurs, je vous propose de vous rendre dans l'extraordinaire lieu culturel de quartier qui est le cinéma Le Rio pour la projection de Free Angela and All the Political Prisoners le lundi 10 mars à 20h30, organisée pendant la non moins célèbre Semaine des droits des femmes qui, elle, aura lieu du 8 au 15 mars. Retenez donc cette date, lundi 10 mars, 20h30, séance à 5 € qui sera suivie d'un débat.
La date est prise.
Merci Léla. Et donc, puisque nous sommes un petit peu en retard, nous allons passer directement au bon plan, l'agenda. C'est à toi, Lise.
Allez, donc je vais faire rapide mais efficace. Donc, en ce mois de février, une super conférence organisée par les jeunes communistes dans le cadre de la semaine de la pensée marxiste. Donc, elle aura lieu le mercredi 19 février. La crise, un phénomène qui se conjugue au féminin et aura lieu à la Fac de Lettres en présence exceptionnelle de Stéphanie Thomas. Et oui, notre chère coprésidente. Donc, voilà. Donc, c'est mercredi 19 février à 20h à l'amphi 2 de la Fac de Lettres. Par ailleurs, au mois de mars maintenant, vous ne l'ignorez sans doute plus, nous menons actuellement une grande campagne dite Parité, Égalité, Municipalité. Donc le 8 mars prochain, l'équipe, les militantes d'Oser le Féminisme 63 vont interpeller toutes les candidates et candidats aux élections municipales clermontoises. Donc cette interpellation forcément portera sur des questions féministes et sur des questions relatives à l'égalité femmes-hommes et sera réalisée en partenariat avec un collectif associatif, à savoir, entre autres, j'espère que j'oublie personne, les filles, vous me rattraperez, le planning, femmes et hommes d'avenir, le CADIS, femmes solidaires, espoir de femmes et agile. Donc cette interpellation aura lieu le 8 mars à 17h au Petit Théâtre de Vallière, 1 rue Volney. Donc je pense que je rends le micro à Céline.
Oui, et moi je rends l'antenne. Donc merci à tous, merci à Radio Campus. Rendez-vous le 11 mars pour la prochaine émission. Et non, en attendant, n'oubliez pas de vous féminister en regardant nos informations sur la page Facebook.
Ou sur le blog.
Sur le blog aussi, oui, bien sûr. Vous pourrez peut-être retrouver la chronique que je n'ai pas faite aujourd'hui avec de la chance. Et donc, je rends l'antenne puisque bientôt c'est Sound of the Beast. Oui, il est là.
For what
If you wanna sweat a little, if you wanna get a little, if you wanna take a sec.